Alors, je t'explique, en fait, je me suis préparé quelques questions. Pour moi, les questions, d'abord que j'ai pu me poser moi, en tant que pratiquante, qui sont aussi des questions qui peuvent revenir régulièrement dans les discussions et les échanges que je peux avoir avec d'autres ultra-trailers. Et ça peut être aussi des questions que moi, quelquefois, me pose, tu vois, comme si on considérait que j'avais une quelconque science infuse. Et après, libre, si tu veux, on fera des écarts ou machin. C'est pas. On verra bien en fonction de ce que tu me réponds, quoi. Donc, déjà, la première question qui, pour moi, est la principale, parce qu'on est d'accord, je suis dans une configuration où je prépare un 360, qui sera pour moi la première fois que je me lance dans aussi long. À quel moment, la question qu'on se pose souvent, c'est à quel moment on peut se lancer sur ce genre de défi? Est-ce qu'il faut attendre, tu vois, d'avoir fait, j'en sais rien, mais 3 UTMB en moins de 30 heures? Est-ce qu'il faut vraiment avoir une expérience énorme? Est-ce qu'on peut considérer que certains d'entre nous ont peut-être justement des facilités, des acquis qui font qu'ils ne seront peut-être pas obligés? À quel moment, en fait, on a le droit, on peut s'autoriser le droit de s'inscrire à ce genre de délire? Je sais pas si tu vois, parce que ça reste assez abstrait comme course, en fait, qu'on le veuille ou non. Et c'est vrai que c'est pas évident.
Il y a un petit décalage. Je crois qu'il y a 10 secondes de décalage, hein. C'est
Oui,
pas grave.
mais.
Si je peux me permettre déjà de ta première question, en fait, elle interroge déjà. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu me poses une question, mais moi aussi, ça me fait poser des questions. Parce qu'en fait, quand on parle de délire, de défi, c'est quand même pas n'importe quoi de parcourir 360 km, quoi. Donc, c'est quelque chose, je pense déjà, qu'il faut voir. C'est-à-dire, il y a le sujet, il y a l'objet. On va pas faire de la philosophie, mais l'objet, il faut regarder déjà l'objet. C'est ça. L'objet, c'est quand même faire 360 km. Alors, il faut oublier, je pense, cette notion peut-être de course à pied. Performative avec des chronos sur des distances ou des moins de 30 heures ou des moins de 40 heures, enfin voilà. Moi, je pense qu'il faut l'oublier. C'est de voir déjà l'objet comme une performance sur soi déjà réalisable. C'est-à-dire que c'est quand on fait de la course à pied, je pense que c'est un prétexte en fait à grandir, à faire quelque chose de sa vie. Au-delà de l'humain, c'est aussi d'un point de vue physiologique, anatomique, etc. C'est de se découvrir sur ce point de vue-là. Donc, moi, je pense que déjà, c'est une question vraiment individuelle. C'est vraiment, pour moi, c'est avant de se poser une question collective et vis-à-vis d'un coach, vis-à-vis des autres, c'est déjà de faire mûrir ce projet et se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait, moi, déjà? D'un point de vue un peu, parce que c'est pas l'aventure, c'est pas ça, hein. L'aventure, c'est jamais quelque chose qui est su à l'avance. Une vraie aventure, c'est pas ça. Mais quelque part, on a cet esprit aventureux de se lancer dans quelque chose de nouveau et quelque part un petit peu, on va dire inhumain, dans le sens où on est nous vachement sédentarisés quand même. On aime bien le confort et se dire, bon, je vais faire 360 km. En fait, il va falloir penser quand même à ça, c'est-à-dire que là, on n'est pas à cette notion de course à pied, on est à la notion de déplacement très très long avec du manque de sommeil et une grosse fatigue. Voilà, c'est ça, moi, je vois surtout, c'est-à-dire que est-ce que je vais être capable de pouvoir tenir, si tu veux, déjà sur cette notion de fatigue qu'on a oubliée complètement, tu vois? Pour moi, 360 km, ça va être ça. Parce que si tu fais 4, enfin, si tu marches, parce que tu vas beaucoup marcher, en fait,
Bien sûr,
à 4-5 km heure, tu comptes, voilà, tu comptes le nombre d'heures que ça fait. Tu divises par 360, 4 à 5, et tu vois le nombre d'heures que tu vas réaliser. Voilà, donc déjà, tu as le calcul pour dire est-ce que voilà, je vais pouvoir me lancer là-dedans.
mais. Tu vois, ce qui est, c'est un peu le souci, enfin, c'est un peu le principe même de ce système-là qui fait que, bah, du coup, on se met des challenges et donc pour se sortir de sa zone de confort. Donc, c'est vrai que on va petit à petit basculer vers l'inconnu. Donc là, c'est là toute la complexité pour moi de ce genre de préparation, c'est que réellement, tu vois, le truc complètement bête, mais qui, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand j'ai commencé mes premiers marathons, mes prépas, on me disait, tu dois faire des sorties longues qui sont entre un semi et 30 bornes. Bon, on va dire. On ne te mettait pas, évidemment, des 42 km pendant ta prépa. Et là, on se dit quoi ? Tu sais, tu dis à un moment, je bascule, ça veut dire que je me fais une sortie longue de 150 à 180 km un week-end par mois pendant 6 mois. Est-ce que ça a un intérêt ? T'as d'un côté, on a des personnes qui te disent, il faut, bah, de toute façon, il faut évidemment faut faire des kilomètres, la question ne se pose pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à la fraîcheur, à faire que justement, par rapport à ce que tu disais, l'arrivée, que ça va surtout être une gestion finalement plus de la fatigue sur plusieurs jours. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de trouver un juste équilibre entre une prépa physique et une prépa qui ne reste pas trop fatigante pour ne pas non plus arriver totalement explosée. Et puis, bah, voilà, ils sont trouvés au bout de 150 bornes, de toute façon, décalqués dans une base de vie à vouloir qu'on t'achève. Je te donne ça comme exemple parce que je vais t'en prendre un qui moi, m'a concerné. C'était justement par rapport à des marathons des sables, tu vois, course en étapes et tout. Et j'ai vu beaucoup de gens arriver sur le marathon des sables avec une quantité de kilomètres complètement dingue, très souvent chargés avec un sac de 8-10 kilos, on va dire, pour s'entraîner à supporter ce foutu sac qui est un problème. Et qui finalement, mais au bout de 3 jours, sont décalqués. Et je leur mets, et je les ramassais sur l'étape longue. C'est souvent des gens qu'on ramasse sur l'étape longue parce que le 4e jour, ils sont arrivés finalement avec une telle fatigue, avec plein de micro-blessures un peu planquées partout, que, bah, à un moment, finalement, ça a pété. C'est-à-dire qu'ils ont tiré sur l'élastique tellement fort pendant leur préparation que l'élastique a pété pendant la course. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, par rapport à une prépa d'une Swiss Peak, c'est de réussir à trouver un juste équilibre entre faire des bornes, faire du dénivelé, travailler, vraiment sortir de ma zone de confort pendant la préparation, tout en veillant à justement ne pas faire péter l'élastique le jour J, puisque le but quand même, c'est pas que la préparation, c'est vraiment le jour, c'est la course, c'est passer la ligne d'arrivée, et de préférence sur mes deux pieds, pas trop à l'agonie, c'est vrai que c'est ça qui me fait un peu peur, tu vois, dans la gestion de la préparation. Et c'est là que je me dis, est-ce que vraiment il y a pas le fait d'avoir justement un coach va peut-être te permettre de gérer et d'éviter que tu fasses péter l'élastique avant, ou c'est
il y a plein de choses dans ce que tu évoques. Effectivement, il faut déplier ces choses-là. Apprendre à déplier, ça veut dire faut que tu aies quand même la vision. Il y a plein de choses. Tu amènes, si tu veux, le côté de la peur, mais c'est plutôt de l'anxiété. C'est-à-dire l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Donc, oui. Je pense que à un moment donné, quand on vise le roi soleil, on tombe dans les marécages tout de suite. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce que tu évoques, les gens, pour moi, l'intérêt dans ce genre de projet, c'est le chemin pour y parvenir. Quand je te dis, justement, quand on fait ce genre de projet, on grandit parce qu'on apprend vraiment à se connaître. Donc, j'entends dans tes propos, effectivement, les gens ceci, les autres cela. Je pense qu'après, il faut aussi être convaincu de ce qu'on fait et de la démarche que l'on prend et le choix pour y parvenir. Il faut en être convaincu. Il y a des gens qui auront besoin, effectivement, de se rassurer, peut-être de faire un petit peu plus de kilomètres, etc. Mais je crois que c'est vraiment un chemin beaucoup plus individuel, beaucoup plus personnel, dès l'instant où on touche l'ultra-distance. Moi, j'en suis convaincu. On est moins dans le côté performatif, de la comparaison, de la rivalité mimétique qu'on peut avoir avec les concurrents. Là, on est dans un chemin... tu parles effectivement de sortir de sa zone de confort, on entend se dépasser, ces choses-là. Donc, il y a un chemin, moi, à mon avis individuel, sur lequel on a ce besoin de justement frôler un petit peu ses limites pour sentir qu'on existe, hein, quelque part. Mais en même temps, bah, c'est normal que ça te fasse peur puisque c'est des endroits où tu n'as pas été encore. Donc, c'est normal d'avoir peur, quoi, d'avoir un peu d'anxiété. Donc, effectivement, la préparation de ce genre de choses pour te rassurer et pour rassurer les gens, c'est que finalement, plus l'effort est très long, moins il y a d'intensité déjà d'effort. C'est-à-dire que effectivement, on est sur une épreuve de longue endurance à faire les choses quand même assez lentement parce qu'on ne peut pas aller très vite. Ce n'est pas possible, 360 km. Je pense que déjà sur le Grand Raid, la moyenne est à 7 km/h. On imagine que là, la moyenne, voilà, tu vois, elle ne va pas être très élevée et qu'à un moment donné, de toute façon, on va énormément marcher. Voilà, beaucoup plus. On va trottiner, on va marcher beaucoup, quoi. Oui. Donc, je crois qu'il faut rassurer les gens sur le fait que ce n'est pas sur le secteur vraiment performatif, la course à pied, qu'il faut vraiment travailler. C'est effectivement ce secteur qu'on appelle le mental, qu'on a du mal à définir, en fait. Parce qu'on le définit n'importe comment, le mental. Le mental, c'est un sujet très vaste. Et je pense que c'est là où il faut mettre le point d'orgue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais me retrouver finalement à avoir une très, très grande fatigue avec un manque de sommeil, une très, très grande fatigue musculaire, articulaire, même enfin, nerveuse, hein, de fatigue mentale, de charge mentale.
Oui.
On connaît bien quand on travaille. Et après, il va falloir faire avec ça et composer avec ça. Et c'est là où ça va être intéressant. Je pense que c'est là où c'est intéressant. Mais je ne pense pas que...
Je vais mettre un week-end par mois pendant 6 mois. Est-ce que ça a un intérêt? T'as d'un côté, on a des personnes qui te disent il faut, bah, de toute façon, il faut évidemment faut faire des kilomètres, la question ne se pose pas. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à la fraîcheur, à faire que justement, par rapport à ce que tu disais, l'arrivée, que ça va surtout être une gestion finalement plus de la fatigue sur plusieurs jours. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de trouver un juste équilibre entre une prépa physique et une prépa qui ne reste pas trop fatigante pour pas non plus arriver totalement explosée et puis, bah, voilà, se retrouver au bout de 150 bornes, de toute façon, décalquée dans une base de vie à vouloir qu'on t'achève. Je te donne ça comme exemple parce que je vais t'en prendre un qui moi m'a concerné, c'était justement par rapport à des marathons des sables, tu vois, course en étapes et tout. Et j'ai vu beaucoup de gens arriver sur le marathon des sables avec une quantité de kilomètres complètement dingue, très souvent chargés avec un sac de 8-10 kilos, on va dire, pour s'entraîner à supporter ce foutu sac qui est un problème, et qui finalement, mais au bout de 3 jours, sont décalqués. Et je leur mets, et je les ramassais sur l'étape longue. C'est souvent des gens qu'on ramasse sur l'étape longue parce que le 4e jour, ils sont arrivés finalement avec une telle fatigue, avec plein de micro-blessures un peu planquées partout, que bah, à un moment, finalement, ça a pété. C'est-à-dire qu'ils ont tiré sur l'élastique tellement fort pendant leur préparation que l'élastique a pété pendant la course. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, par rapport à une prépa d'une Swiss Peak, c'est de réussir à trouver un juste équilibre entre faire des bornes, faire du dénivelé, travailler, vraiment sortir de ma zone de confort pendant la préparation, tout en veillant à ne pas faire péter l'élastique le jour J, puisque le but quand même, c'est pas que la préparation, c'est vraiment le jour de, c'est la course, c'est passer la ligne d'arrivée, et de préférence sur mes deux pieds, pas trop à l'agonie, c'est vrai que c'est ça qui me fait un peu peur, tu vois, dans la gestion de la préparation. Et c'est là que je me dis, est-ce que vraiment, il n'y a pas le choix, le fait d'avoir justement un coach va peut-être te permettre de gérer et d'éviter que tu fasses péter l'élastique avant ou c'est...
Il y a plein de choses dans ce que tu évoques. Effectivement, il faut déplier ces choses-là. Apprendre à déplier, ça veut dire faut que tu aies quand même la vision. Il y a plein de choses. Tu amènes, si tu veux, le côté de la peur, mais c'est plutôt de l'anxiété. C'est-à-dire, l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Donc,
Oui.
je pense que à un moment donné, quand on vise le roi soleil, on tombe dans les marécages tout de suite, hein. Donc, c'est-à-dire que ce que tu évoques, les gens, pour moi, l'intérêt dans ce genre de projet, c'est le chemin pour y parvenir. Quand je te dis, justement, quand on fait ce genre de projet, on grandit parce qu'on apprend vraiment à se connaître. Donc, j'entends dans tes propos, effectivement, les gens ceci, les autres cela. Je pense qu'après, il faut aussi être convaincu de ce qu'on fait et de la démarche que l'on prend et le choix pour y parvenir. Il faut en être convaincu. Il y a des gens qui auront besoin, effectivement, de se rassurer, peut-être de faire un petit peu plus de kilomètres, etc. Mais je crois que c'est vraiment un chemin beaucoup plus individuel, beaucoup plus personnel, dès l'instant où on touche l'ultra-distance, à mon avis. Moi, j'en suis convaincu. On est moins dans le côté performatif de la comparaison, de la rivalité mimétique qu'on peut avoir avec les concurrents. Là, on est dans un chemin. Tu parles effectivement de sortir de sa zone de confort. On entend se dépasser, ces choses-là. Donc, il y a un chemin, moi, à mon avis individuel, sur lequel on a ce besoin de justement frôler un petit peu ses limites. Pour sentir qu'on existe, hein, quelque part. Mais en même temps, bah, c'est normal que ça te fasse peur puisque c'est des endroits où tu n'as pas été encore. Donc, c'est normal d'avoir peur, quoi, d'avoir un peu d'anxiété. Donc, effectivement, la préparation de ce genre de choses pour te rassurer et pour rassurer les gens, c'est que finalement, plus l'effort est très long, moins il y a d'intensité déjà d'effort. C'est-à-dire que effectivement, on est sur une épreuve de longue endurance à faire les choses quand même assez lentement, parce qu'on ne peut pas aller très vite. Ce n'est pas possible. 360 km, je pense que déjà sur le Grand Raid, la moyenne est à 7 km/h. On imagine que là, la moyenne, voilà, tu vois, elle ne va pas être très élevée, et qu'à un moment donné, de toute façon, on va énormément marcher. Voilà, beaucoup plus. On va trottiner, on va marcher beaucoup, quoi. Donc, je crois que c'est, il faut rassurer les gens. Le fait que ce n'est pas sur le secteur vraiment performatif, la course à pied, qu'il faut vraiment travailler, c'est effectivement ce secteur qu'on appelle le mental, qu'on a du mal à définir, en fait. Parce qu'on le définit n'importe comment, le mental. Le mental, c'est un sujet très vaste. Et je pense que c'est là où il faut mettre le point d'orgue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais me retrouver. Finalement, avoir une très très grande fatigue avec un manque de sommeil, une très très grande fatigue musculaire, articulaire, même enfin, nerveuse, hein, de fatigue mentale, de charge mentale qu'on connaît bien quand on travaille. Et après, il va falloir faire avec ça et composer avec ça. Et c'est là où ça va être intéressant. Je pense c'est là où c'est intéressant. Mais je pense pas que.
Oups.
Il fasse dire voilà, que tous les jours, on est obligé, et comme tu l'as évoqué, tu as entièrement raison, à arriver avec la fraîcheur. Moi, je pense que c'est aussi important. La fraîcheur physique, certaines fraîcheurs mentales.
Mental, oui, tout à fait. Je pense que ça joue aussi et c'est peut-être quelquefois quelque chose qu'on néglige. Justement, cette fraîcheur mentale, quand tu arrives sur un gros challenge comme ça. Mais une autre question que je me pose souvent, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, ça a rien à, enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, l'alimentation. Bon, d'un côté, on te dit, il faut tester ça à l'entraînement, il faut arriver en gros, enfin, c'est pas qu'il faut avoir un plan d'alimentation, mais quasiment en fait. J'ai suffisamment, si tu veux, enfin voilà, tu fréquentais entre guillemets des élites qui ont carrément des trucs très très précis, enfin des tableaux de bord d'une précision chirurgicale, on va dire. Et puis bah, ça fonctionne pour eux, donc je comprends. Et alors d'un côté, on nous dit, tu vois, il faut vraiment préparer, il faut anticiper, il faut que, voilà. Et puis de l'autre, on te dit souvent aussi, tu arrives au ravitaillement, ce qui te fait envie, c'est que c'est bon pour toi. Donc je fais quoi alors? J'écoute mon envie de raclette alors que c'est une incohérence pas possible et que je risque vraiment de le payer ou est-ce que Ou est-ce que vraiment on essaye au maximum quand même d'avoir un plan d'alimentation, surtout sur un truc où on le sait forcément, si tu veux, un truc aussi long, va y avoir un impact digestif. Enfin, je ne vois pas comment tu peux ne pas avoir d'impact au niveau du système digestif sur du aussi long. Donc, enfin, c'est vrai que je suis un peu perdue. Je me dis, est-ce que je pars du principe que bah, je pars avec mes trucs? Et puis, ma foi, j'ai le droit de m'écouter aussi. Et puis advienne que pourra. Et ça devrait le faire. Mais c'est vraiment. Enfin, ouais, on sent que les gens.
Il y a aussi plus. Il y a plusieurs choses, encore une fois. Effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de questions, en fait, qui émanent, et beaucoup de thématiques qui émanent de tes questions et qui sont légitimes. Hein. Je l'entends bien, je les entends très, très régulièrement, de plus en plus. Effectivement, moi, maintenant, tu sais, je suis un de sportif, même dans des entreprises, mais aussi, si tu veux, même dans l'accompagnement, tu vois. Et ça trouve même, enfin, on peut parler de ça, mais que les gens qui fassent de l'ultra se mettent à faire, entre guillemets, des régimes et à tout peser. Et
Oui.
moi, ça me sidère un peu. On n'est pas dans le très haut niveau, effectivement. Moi, je l'ai côtoyé, donc je sais effectivement que 7 heures à l'ultra trail Mont Blanc, donc 20 heures. C'est pas 60 heures déjà, c'est pas 80 heures. Voilà. À un moment donné, degré de performance, on va dire exceptionnel, avec, entre guillemets, des gens qui vont justement être à 10 minutes près et être très précis. Moi, je pense que sur des épreuves de très long, au contraire, je pense que je me restreins. Sur ceci, je me restreins sur cela. Effectivement, par contre, il se passe des choses. Il se passe des choses sur le long. Il faut, bien sûr, à un moment donné, plus l'intensité est élevée, bah, moins, enfin, faut agresser l'organisme digestif. Hein, voilà, enfin, je veux dire, tout ce qui est lié estomac, intestin, etc. Mais je crois que, effectivement, c'est juste une question de quantité, je pense, et de qualité d'aliments qu'on a l'habitude de prendre.
Ouais.
Effectivement, on a tous un microbiote différent, et je pense que souvent l'erreur qui est faite, c'est que beaucoup de gens changent leur alimentation pendant l'épreuve ou quelques jours avant
Oui.
ou les choses comme ça, et finalement, l'organisme ne comprend absolument pas. En plus, l'organisme est dans un état de stress et d'anxiété. Voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. En plus, on change certaines choses de l'alimentation. Donc, je pense que voilà, il y a énormément de questionnements, mais souvent, on fait des erreurs juste quelques jours avant ou pendant. Et il faut faire simple, en fait, je pense, avec l'alimentation, c'est-à-dire lui apporter très peu en petite quantité,
Oui.
très souvent. Voilà, c'est ce qu'on dit sur le long. Sans agresser, voilà, c'est très soft en fait. Moi, je parle de ce qu'on appelle déficience, c'est-à-dire que l'aliment, il doit être aussi efficace que qui permette l'économie en fait de ton système digestif. Que ce soit dans ton allure, que ce soit dans l'alimentation, l'efficience, c'est fondamental. C'est-à-dire, est-ce que cet aliment va être efficace à un moment donné? Est-ce que je ne vais pas trop en prendre? Et voilà, donc c'est juste la bonne dose pour pouvoir continuer. Voilà. Alors, il y a pas mal de recherches qui se font effectivement en ce moment. Il y a Super Sapiens qui travaille
Oui, ben.
sur le Super Sapiens, il travaille sur le taux de glycémie. Voilà,
Figure-toi que
je ne sais pas si tu
je l'ai
connais.
testé ce week-end,
Le
justement.
taux.
Je me suis collé
D'accord,
à
voilà. Donc, je trouve ça bien. Tu vois, des
je me
choses
suis
comme
collé
ça qui
ça.
permettent de voir le taux.
J'ai trouvé ça, ça m'a paru, c'est marrant que tu en parles parce que justement, quand moi, en tant que journaliste, évidemment, j'ai reçu le communiqué de presse. Et le premier truc que je me suis dit, mais c'est bien sûr, pourquoi c'est pas arrivé avant, puisque le système existe, le patch en lui-même, le système de collecte d'informations existe évidemment pour les diabétiques. Et ça m'a forcément interpellée. Donc, je l'ai testé le week-end dernier en faisant exprès justement de le faire sur une grosse sortie longue et de noter la prise alimentaire, les horaires, on peut voir. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. Enfin, c'est assez intéressant, je pense, de travailler là-dessus. Et ça me paraît, le système me paraît évident. Enfin, me parle énormément pour la personne que. J'ai une formation un peu médicale à la base, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui forcément m'interpelle. Après, c'est ce que je disais, je pense qu'un système comme Super Saint-Pierre, qui est vraiment très très intéressant, nécessite quand même que tu aies quelqu'un à côté pour t'aider à interpréter, c'est-à-dire soit tu as des connaissances, mais clairement ça vaut le coup de faire cette collecte et après de travailler ou avec ton coach ou avec un nutritionniste ou tout ça qui va t'aider à analyser, parce qu'on te donne des données brutes. Et il faut savoir ce qu'on en fait derrière, en fait, de ces données brutes. Quoi. Donc oui, tu vois que tu fais une hypo, oui, mais c'est pas toujours évident. On a souvent le sentiment, on fait des choses qu'on pense être bien et les mieux pour soi, et c'est pas aussi simple. Donc c'est un système qui est super intéressant. Justement, enfin, je l'avais inclus parce que vraiment, ça avait fait tilt, et je pense qu'on fait toujours encore... On fait encore beaucoup d'erreurs. Je pense que la grosse difficulté pour l'amateur, donc je suis, c'est exactement ce que tu abordais, c'est la petite quantité en fait. Moi, pour avoir, tu vois, suivi, avoir eu la chance d'accompagner l'élite ou d'avoir fait le suivi ou j'ai eu Seb Chéniaud un jour qui m'a tenu la jambe pendant le pauvre garçon pendant plus de 40 bornes à mes côtés. Et en fait, j'avais vraiment le sentiment qu'il mangeait quasiment tout le temps en fait. Qui passait, si tu veux, son temps à manger ou à boire en toute petite quantité par rapport à ce que nous on fait. C'est-à-dire que c'est vrai que l'amateur aura tendance à, très souvent, il ne mange pas, enfin, soit le pire, c'est qu'il attend d'avoir faim pour manger, ce qui est clairement mon cas, très souvent, soit il attend le ravito pour manger, ce qui est encore plus idiot, parce que c'est souvent une grosse erreur, ou alors il va se taper une grosse barre, mais d'un seul coup en fait. Et du coup, oui, c'est clair que tu le vois au niveau de la glycémie. J'ai fait le test avec le système Super Sapiens, on a fait une pause déjeuner, j'ai pris une compote, mais juste une compote, hein. Mais tu voyais le pic. Tu vois, ça a été super rapide, alors qu'en fait, j'aurais dû, je pense que si je l'avais prise, cette fameuse compote, en l'assimilant, si tu veux, tu vois, deux, trois, parce que c'était en gourde, donc deux, trois gorgées toutes les 20 minutes, ou machin, je l'aurais certainement pas eu, ce pic. Donc, c'est vrai que c'est quelquefois un peu compliqué pour nous, amateurs, de gérer ça. Et c'est souvent un truc, il faut qu'on travaille beaucoup plus, nous. Et c'est cette notion de, il faut vraiment manger très très régulièrement, quoi. Mais en petite quantité.
Moi, je voulais revenir parce que effectivement, tu évoques des choses, et je l'entends souvent, le mot, oui, nous sommes amateurs. Par exemple, moi, j'ai des personnes qui disent, je vais faire la mascaringue, oui, je vais faire la petite course, 70 km, ils s'excusent presque, tu vois. Moi, je dis à un moment donné, il faut quand même changer un peu le modèle et se dire qu'effectivement, on est toujours dans une modélisation qui n'est pas la bonne, notamment dans l'ultra-distance. C'est-à-dire qu'on est encore dans une modélisation, si tu veux, basée sur la vitesse du premier. Mais là, ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'on fait quelque chose d'extraordinaire, quelle que soit la personne. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, c'est comme si demain, tu faisais des régates à la voile et que tu vas faire la traversée de l'Atlantique. En fait, à un moment donné, tu vas te préparer différemment. Et c'est là où c'est la différence, c'est-à-dire une régate ne va pas se préparer de la même façon qu'une traversée de l'Atlantique. Là, tu pars sur une traversée, donc quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc, ton corps, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Et il y a plein de choses intéressantes, justement, qui sont liées à ton entraînement, à la façon d'apprendre à te connaître, l'alimentation. Il y a une chose sur l'alimentation qu'il ne faudra pas oublier dans les années à venir, et je discute beaucoup avec Thierry Schmitt là-dessus, c'est la qualité de l'eau. Et la qualité de l'eau, c'est quelque chose qu'on a oublié et qui est un vecteur très, très important dans l'avenir. Bon, tu sais, il y en a qui prennent du Quinton, des choses comme ça, mais la qualité de l'eau, elle est fondamentale. C'est elle qui va, en fait, c'est la première chose dont on a besoin dans l'effort. Au-delà de mettre des molécules derrière de sucre, etc. Après, je pense que c'est la qualité de l'eau, souvent au niveau de l'intestin, je pense, au niveau du microbiote. Et souvent, elle est mise de côté, tu vois.
Ah oui, d'accord. Mais quand tu dis qualité de l'eau, ça veut dire qu'il faudrait, en gros, ne pas forcément se contenter d'eau plate et aller sur une eau de qualité minéralisée, pas forcément eau gazeuse. Parce que bon, on a tendance à...
Hop. En fait, c'est... Par exemple, il y avait la qualité de l'eau, c'est pas si évident que ça parce que il existe énormément d'eau et elles ont des impacts et des effets complètement différents. Je pense qu'il faut varier toutes les eaux.
D'accord.
Moi, je conseille aux gens pour essayer de maximum comme ça. On est sûr finalement d'apporter différents minéraux parce qu'il y a un impact vraiment minéral sur l'organisme. Et notamment, après, avec les écarts de température, ça peut avoir un énorme impact sur le microbiote, sur la circulation sanguine, etc. Et d'accord. La qualité de l'eau, effectivement, c'est préparer l'organisme. Donc, on parle effectivement, après, ça coûte très cher le Quinton, mais tu sais, il y a de l'eau très purifiée, le Quinton, on la trouve maintenant, tu sais, en ampoule, machin, où en fait, on va préparer un peu l'organisme, si tu veux, à avoir une qualité d'eau. Et en fait, là... Moi, je ne maîtrise pas tout le sujet, il y a des experts là-dessus. Mais ils te disent qu'à un moment donné, finalement, ton eau se transforme toutes les temps de semaine. C'est-à-dire que, tu vois, finalement, il y a un renouvellement, entre guillemets, de la masse sanguine, etc. Et ça prend un certain temps. Et en fait, peut-être avant l'épreuve, tu vois, il y a ces choses-là qui évoluent. Je pense que ça, c'est l'entraînement de l'avenir aussi. Sur les éléments de qualité d'eau, je pense que c'est un élément... sur l'ultra notamment. Après, évidemment, il y en a d'autres, hein, sur les versants de supporter la chaleur ou les températures, etc. Mais c'est un versant, parce que tu parles d'alimentation, qui me semble assez fondamental et qu'on a complètement mis de côté.
Tout à fait. Tout sur les sucres. Mmh. Oui, mais non, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aurais pas envisagé. J'aurais pas forcément réfléchi là-dessus. Une autre question.
Peut-être filtrer l'eau, de conseiller aux gens à filtrer l'eau, filtrer leur eau, ça me semble fondamental.
Ouais, d'accord. Bah, en plus, moi dans mon cas, tu vois, j'en ai des flasques, des systèmes de filtration parce que mes trucs à la noix, ça a été obligatoire une fois pour un équipement sur une course et je l'ai gardé, enfin je l'ai en fait en plus, donc c'est pas quelque chose qui serait compliqué pour moi à mettre en place, donc c'est assez intéressant, je vais aller gratter ce truc là, ce sujet là ça m'intéresse pas mal, t'as ouvert une fenêtre là. Par rapport, pour en revenir à l'entraînement justement, donc on parle beaucoup d'entraînement croisé, on te dit pour limiter justement les risques de blessures, ou même, pour rafraîchir un peu le mental, pour ne pas faire que la même chose, ça peut être aussi assez sympa. Mais du coup, c'est quoi les équivalences? Enfin, quelles sont les réelles équivalences? Ce que je veux dire, c'est que, on est bien d'accord, 10 km de course à pied en montagne, c'est pas 10 km de vélo sur le plat avec un petit panier. Est-ce qu'on a vraiment un tableau d'équivalence quelque part qui existe et qui est assez précis
C'est en fait une question assez complexe. Il faut parler en termes de charge d'entraînement. En fait, C'est, faut bien comprendre que moi, ce que j'explique, aux athlètes qu'il est très rationnel, il faut qu'on fasse, tu vois, tant de kilomètres, il faut que ça soit équivalent à temps, etc. Oui. Et moi je m'oriente de plus en plus vers un travail au ressenti qui n'a pas été forcément bien compris, parce que le travail au ressenti, c'est en fait à un moment donné, on va se retrouver tout seul, arriver progressivement, et c'est pas parce qu'on a fait tu vois, enfin du fractionné en temps ou avec des tables bien établies. La manière en fait dont on va amener l'organisme petit à petit finalement à supporter cette dose de fatigue. Et tout est bon là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut faire 3 heures de vélo, on peut faire 8 heures de randonnée, on peut faire une heure de travail en salle. Je pense que dès l'instant où on provoque l'organisme, on le met dans des états de fatigue un peu différents, c'est là où c'est intéressant, je pense. Et c'est là où doivent, dans l'ultra-endurance, provoquer un peu l'organisme. Provoquer, le crossfit peut être bien aussi, parce qu'effectivement, bah, dans un peu d'épuisement, dès l'instant où ce n'est pas tous les jours, ça peut être bien, parce qu'en fait, on va aller dans d'autres... d'autres filières, d'autres registres de contraction qui font que l'organisme il se trouve un petit peu violenté. Et c'est ce qui se passe en fait dans l'effort. Et on a oublié que l'effort, il est avant tout organique, physiologique et surtout individuel. Donc, différente à cet effort. Et moi, j'ai peur un petit peu des tableaux comparatifs. Dès l'instant où, effectivement, peut-être qu'il y a des gens, ils auront besoin de faire un petit peu plus de long parce qu'ils ont du mal à tenir, ils se sentent bien, ils ne sont pas très endurants, donc ils vont être obligés de travailler sur le long et travailler leur endurance. Quand d'autres, ça va être peut-être plus le côté de la résistance musculaire qui vont arriver, et il faut y penser aussi. Donc, en fait, c'est assez vaste. Et je pense que l'idée, c'est effectivement tout est bon dans le cochon, comme on dit, mais non, tout est bon dans l'effort.
Oui, oui, oui.
Pour dire, au bout du compte, que tous les efforts physiques, quels qu'ils soient et qui vont être dans le projet, sont intéressants pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra quand même explorer l'épreuve longue. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être faire des très longues sortie à vélo, pour qu'on puisse voir comment l'organisme réagit. Voilà, ça me semble fondamental, mais pas tout le temps.
Non, non. Non, en fait, après, de toute façon, on parle toujours pour l'ultra d'organiser des blocs, donc de travailler sur la fatigue et de partir, de se dire pendant 3 jours, même si c'est 3 jours de randonnée, mais on sort de... Enfin, si on va marcher 10 heures par jour pendant 3 jours de suite, je pense que de toute façon, ça ne peut avoir qu'un intérêt au niveau justement du travail de la fatigue, d'y retourner. Je pense que c'est la particularité justement des courses en étapes que j'ai pu faire, si tu veux, c'est le côté répétitif. Il faut avoir le courage le matin de remettre ses chaussures et d'y retourner. Alors que tu as des courbatures, que tu as une ampoule, que tu as ce que tu veux, tu dois y retourner. Et je pense que les blocs ont aussi cet intérêt-là, en fait, le côté, parce que sur un très long comme... Oui, vas-y.
Si je peux me permettre d'intervenir, ça revient un petit peu à ta question numéro 1. Tu vois, je suis un petit peu... Moi, j'aime bien embrouiller les gens. Effectivement... j'ai un 360 km, quel moment, etc., lancer ce défi, tout ça. Il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'on a tous un espace résiduel. Et ça, on l'a oublié dans l'entraînement, c'est un des fondamentaux de l'entraînement, c'est-à-dire le résiduel. C'est-à-dire qu'on ne part jamais tabula rasa, c'est-à-dire on ne part jamais à zéro. Tu as fait, toi, les courses du... effectivement dans le désert. Ça, c'est des choses résiduelles. Ton organisme a gardé une trace.
Oui, je vois.
Je vais dire résiduelle de fatigue. Elle a gardé une trace. Et c'est moi, je trouve que j'ai l'impression qu'on revient toujours un peu. Voilà, on repart à zéro, on fait un nouveau projet. Et on a oublié qu'on avait un résiduel. Par contre, là où j'interviens, c'est qu'effectivement, si la personne n'a qu'une seule année de pratique avec un seul marathon, ça va être très, très dur pour elle hein, de faire un 360 km. Ça, il faudra lui dire que c'est un projet. Voilà, c'est un projet extrêmement difficile à réaliser, tu vois, enfin, quelque
oui,
part.
Oui, oui.
Mais ça n'empêche pas de le réaliser. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais le chemin pour y parvenir sera plus dur, un plus gros risque. C'est ça que je veux dire.
Ouais.
Un plus gros risque de se planter.
Oui, non, mais tout à fait. Ouais. Sinon, une dernière question qui est un des gros sujets à la mode en ce moment. Bon, alors, les femmes sont plus fortes que les hommes sur Ultra ou pas? Légende urbaine, est-ce que vraiment physiologiquement, on a réellement un plus? Alors, je vais commencer par répondre moi-même avec mon propre avis de femme. Comme ça, tu pourras derrière répliquer. Personnellement, j'en suis absolument convaincue, justement. Je pense que les femmes, physiologiquement, hommes et femmes, on est différents, point barre. C'est pas la peine de se rouler par terre, de vouloir l'égalité, elle n'est pas réelle. C'est comme ça, et c'est très bien, puisque je considère qu'on est complémentaires, donc c'est pas gênant. Mais je suis pas aussi convaincue que ça, justement, que les femmes aient une supériorité sur l'ultra, parce qu'elles vont avoir des qualités, mais les hommes aussi ont des qualités qu'on n'aura pas nous forcément. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas aussi simple et aussi simpliste. Ça, on va avoir de plus en plus de femmes qui finissent devant les hommes sur ultra, aussi pour des questions purement de nombre. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, il y a 30 ans, il n'y avait pas de femmes. Enfin, on était quasi, il y avait quasiment personne. Déjà moi, à mon niveau, tu vois, qui est quand même, ça remonte à, c'est pas avant la guerre, hein, c'était il y a 15 ans. Il m'est vraiment arrivé très souvent de prendre le départ d'une course, on était trois femmes. Donc, si tu veux, je faisais podium puisqu'on était que trois. On était très, très peu. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui arrivent. Donc, par la force des choses, il y a forcément de plus en plus de femmes fortes. Et ça arrivera, tu vois, mais c'est plus une question pour moi. Il va y avoir une question purement mathématique de chiffres à la base. Si tu as au départ d'un ultra 50% d'hommes, 50% de femmes, ta probabilité qu'une femme soit devant l'homme et peut-être même au scratch à l'arrivée, elle est forcément beaucoup plus importante que quand il y avait 3% de femmes pour 97% d'hommes. Tu vois où je veux en venir ? Je suis pas, c'est vraiment un sujet là que je vois en ce moment très souvent et je ne suis pas autant convaincue que ça de notre supériorité entre guillemets. Et du coup, je veux bien l'avis de l'entraîneur. Ouais,
alors, effectivement, aussi bien l'avis de l'entraîneur, effectivement, que en tant que j'ai travaillé un petit peu aussi sur le genre.
Oui, bah voilà.
J'ai fait un master d'histoire là-dessus sur le genre en course à pied.
C'est pour ça.
Et finalement, ce que tu dis, c'est très intéressant tes propos, effectivement. On est en fait un des assez fabuleux. Je trouve, parce que c'est justement un sujet qui est passionnant, parce qu'on est pratiquement le seul sport où les hommes et les femmes, élites ou pas élites, courent et démarrent sur la même ligne de départ. Donc,
oui, tout à fait.
C'est assez fabuleux. Il y a une égalité vraiment des chances de départ. Donc, oui. Si on peut vraiment travailler sur le genre, sur ce genre d'épreuve, c'est vraiment là où il faut le faire. C'est assez vrai dans le sens où il y a un regard tout à fait statistique et mathématique, je pense aussi, sur les nombres et la proportionnalité en fait d'hommes et femmes dans les pelotons. Effectivement, il y a quand même après, si on parle d'un point de vue physiologique, au niveau hormonal, on est différent. Donc
oui.
Il y a quand même finalement des choses qui se passent qui sont différentes. Après, d'un point de vue, on va dire de la force mentale, on va dire oui, on va attribuer certaines choses, un genre, allez, je ne lâche pas l'affaire chez les femmes, j'ai plus de gestion, de l'effort, etc. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Je pense que justement, il faudrait qu'on reste plutôt sur le fait que dire, bah voilà, ok, on est sur l'égalité des chances au départ, et puis on observe. Et on observe en mettant justement ce que tu viens d'évoquer, les mathématiques, les statistiques, etc., et de voir comment les choses vont évoluer. Mais de dire d'un seul coup, ça y est, la femme va supplanter l'homme sur le très long, et plus ça va être long, plus ils vont gagner, en fait, je trouve qu'on va à un moment donné, entre guillemets, stigmatiser un genre qui est totalement faux, pour moi, qui, c'est après, c'est une question de préparation, c'est une question effectivement de connaissances, de compétences, de plein de choses. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que ça me semble dangereux de dire que ces facteurs-là, ça y est, hop, on est femme, on va réussir à battre tous les hommes sur le très très long. Donc, effectivement, il y a des petites choses qui se resserrent, hein, sur, notamment, puisque les vitesses sont réduites, etc. Mais je crois qu'il faut faire attention à tout de suite, voilà, avoir et en sortir un élément de recherche, ça y est. Je pense que c'est peut-être justement des éléments de recherche à faire.
Oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'est ça. Aujourd'hui, on est à un début. Et je trouve ça, je ne vais pas dire dangereux, parce qu'il faut quand même se calmer, on parle juste de course à pied. Mais je trouve ça dommage d'en arriver déjà à des conclusions, alors que pour moi, on est vraiment à un début. Ça n'en reste pas moins absolument génial. Quand une femme gagne au scratch, on ne peut que s'en réjouir, c'est chouette. Ça donne une image, si tu veux, qui ne peut être que positive. Donc, c'est en tous les cas, pour les femmes qui ont quelquefois besoin d'être assurées, qui ont en plus tellement d'années de non-pratique, entre guillemets, puisqu'on n'avait pas vraiment, on n'avait pas le droit, au-delà pour le marathon et au-delà. Donc, c'est chouette, mais je pense qu'il faut faire quand même attention. Voilà, c'est ça qui m'embêtait, moi, c'est ce côté, ça y est, on a la réponse, on a conclusion, on peut passer à autre chose, alors que c'est pas aussi simple.
Je peux te donner quelques arguments pour aller dans ce sens-là. C'est que, en fait, on l'a surtout dans le trail et l'ultra-trail. Alors, il ne faut pas oublier que le trail et l'ultra-trail, ce sont des épreuves où c'est à la place et non pas au chrono. Donc, on n'a pas cette réflexion finalement dans le marathon. Voilà. Oui. Et dans le marathon, bah, ok, dites que les femmes sont plus fortes, bah, montrez-nous, faites-nous la démonstration que les femmes sont plus fortes. Bah, on est arrivé à 2 heures, voilà, et finalement, on est arrivé, j'ai 5 minutes. Ouais, je vais dans l'autre bureau parce que j'arrive. Merci. Oui. Je continue. Oui. Ouais, parce que ça va. On vient me réparer quelque chose. En fait, si tu veux, il y a les hommes là font 2 heures et les femmes à 15 minutes, tu vois.
Oui. Finalement, donc, on va dire que les chronos.
Je suis déplacé.
Oui. Les chronos se sont forcément améliorés, mais finalement l'écart est resté. Donc après, c'est vrai qu'on avait vraiment qu'on nous sortait.
En fait,
Non, mais écoute, c'était.
Il y a un gros décalage.
Oui, mais c'est pas très grave. On s'organise quand même. Bon, bah écoute, de toute façon, voilà, on a fait le tour des questions que j'avais à te poser, donc c'est parfait. Et puis, moi, je vais retravailler ça au niveau du son pour essayer de faire quelque chose de correct. Et je mettrai ça en ligne. C'est super parce que c'est assez intéressant, les ouvertures. Tu vois, ne serait-ce que l'histoire avec l'eau, j'y avais vraiment pas pensé du tout. C'est marrant, hein. Enfin, c'est vrai que j'avais pas. J'avais pas du tout envisagé, j'y aurais pas pensé. Alors que, Tu vois, j'ai vu Thévenard avec ses petites bouteilles à chaque ravitaillement. Enfin, c'est vrai qu'on les voit, on a tendance à penser à la ceinture à l'arrivée, en gros, voire peut-être la ceinture sur le parcours, mais et je simplifie en disant la ceinture, mais tu vois, je suis plutôt coca, quoi. Et l'eau, je m'en fous. Enfin, c'est vrai que je me pose pas. Je me serais pas forcément posé la question de l'eau un jour. Alors que ça paraît une évidence, en fait, d'en discuter. Comment ça se fait que.
Il y a encore plein de thématiques. Il y a encore plein de thématiques. S'ils se privent, par exemple, de café pendant plein de jours, pour après, par exemple, à l'ultra trail du Mont Blanc, en prendre oui. À partir du centième. Tu vois, il y a plein de petites astuces comme ça qui sont pas forcément voilà. Mais qui sont, moi, je trouve assez intéressantes. Justement, comme je te dis, le chemin pour y parvenir, quel que oui. soit le niveau, quel que soit de performance, quel que soit la personne, il y a plein de petites choses à y parvenir. Eh bien, on va être sensible à certaines choses et avec l'entraînement, bah, on grandit. En fait, c'est ce que je disais, machin, pour son projet, c'est aussi s'intéresser à plein de petites choses et en fait, pour moi, c'est vraiment un développement personnel oui. sur ce genre de projet, au-delà de l'aspect purement sportif.
Tu as, par rapport justement, tu disais au café, c'est un peu aussi le principe de faire une alimentation cétogène en keto avant pour faire fonctionner le corps d'abord sur le gras et faire qu'à partir du moment où tu vas finalement inclure du sucre, genre justement à partir du centième et tout, le corps justement réagit, c'est le même principe, c'est-à-dire du coup on va jouer avec sa glycémie et vraiment avoir l'effet booster du sucre de façon beaucoup plus forte puisqu'on se sera carencé, oui, je ne sais pas si on peut le dire, mais pendant plusieurs jours, voire tout début de la course. C'est toujours le même principe, ouais, de pouvoir, en fait de jouer sur l'effet rebond. L'idée c'est de jouer sur un effet rebond d'un truc, quoi.
C'est ça.
Ouais. Non, c'est intéressant comme réflexion, quoi. Après, tu te dis, mais dans quoi on s'embarque? C'est quand même assez compliqué. Mais non, en plus, je l'ai vraiment... des erreurs au niveau de l'alimentation, je l'ai vraiment vécu plusieurs fois, si tu veux, sur des courses. Donc, parce que c'est des choses qui sont un peu compliquées. Et j'ai surtout vécu... je compare toujours avec les courses en étapes parce que c'est un effort qui dure sur plusieurs jours, même si évidemment l'effort n'a rien à voir, et ça j'en sais quelque chose, puisqu'on a un temps de récupération sur les courses en étapes qui n'existe évidemment absolument pas sur le non-stop. Et ça change absolument tout. Mais c'est vrai que c'est le côté alimentation qui fait que au bout du troisième, quatrième jour, t'en peux plus de voir où ton plat lyophilisé, où j'imagine ce sera la bouffe au ravitaillement, que tu te dis, mais ras-le-bol de ce jambon, ras-le-bol de ces tucs et des choses comme ça. Et c'est toute la complexité, c'est que tu peux aussi avoir des choses qui fonctionnent pour plusieurs courses et puis qui tout d'un coup, un jour, ne vont pas fonctionner. Je l'ai eu, enfin, je l'ai vécu, tu vois, d'avoir un plat que j'adorais. Et je me suis retrouvée un jour sur une course au-dessus de ma gamelle à me dire, mais pourquoi je mange ça, quoi? Et ça passait plus du tout. Et j'étais incapable d'avaler ce truc. Pourtant, il me le fallait. Donc, j'ai toujours un plan B maintenant. C'est ce que j'explique souvent. J'ai toujours un plan B dans mon sac pour ne pas me retrouver piégée par ça. C'est-à-dire que ton plan d'alimentation très précis, il me faut un plan B quelque part pour pouvoir en sortir au cas où, parce que finalement des choses qui ont très bien fonctionné ne fonctionnent pas un jour, le pourquoi du comment t'en sais rien, ce jour là ça ne veut pas marcher et tu n'arrives pas à manger et s'il n'y a pas de carburant t'avances pas, enfin, le problème se règle tout de suite, quoi. Et c'est vrai que c'est pas c'est beaucoup plus complexe et qu'on le pense, et c'est quelque chose que je pense on néglige beaucoup trop dans sa préparation, en fait. Parce que moi, en tous les cas, je l'ai trop souvent négligé. De vraiment tout ce qui est alimentation et carburant, en fait. Bon, tu vois, même, c'est vrai que ça fait partie des choses. J'ai fait ma sortie longue avec une amie qui a fait le Tour des Géants, qui a fait pas mal de courses de ce format-là, justement. et qui me disait, tu dois apprendre à boire beaucoup plus. Tu sais, c'est vrai qu'on va, on sort, on, quand on fait une sortie d'entraînement, mais moi, la première, si tu veux, c'est si je vais sortir, je cours une heure et demie, je vais partir. Et puis, si je ne fais pas chaud ou machin, ce qui est mon cas chez moi, je pars sans eau. Tu vois, je veux dire, je vais partir, je vais faire ma séance, je vais passer une heure et demie sans boire. Je boirai, parce qu'en arrivant, évidemment, j'ai très soif et je vais me boire un demi-litre de flotte ou de n'importe quoi. Mais on n'a pas le... on n'habitue pas assez son corps à boire comme ça. Très souvent, on le fait, on va le faire pendant la course, c'est-à-dire qu'on va partir faire une course avec un protocole en disant « Bon, alors maintenant, il faut que je boive toutes les 15 minutes » ou un truc comme ça. C'est ce que je faisais dans les trucs dans le désert. Mais en fait, je n'avais pas habitué mon corps non plus en amont. Je ne l'ai pas entraîné à ça, à une hydratation permanente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et finalement, je pense que c'est... Et c'est une erreur de...
Je veux dire parce qu'en fait, ce que tu évoques là, c'est de la saturation. En fait.
Ouais.
C'est la saturation, en fait, c'est lié à aux différentes fatigues. Pour moi, mon approche, si tu veux, de l'entraînement, elle est basée vraiment sur l'entrée des fatigues. Il y a une fatigue énergétique, il y a une fatigue alimentaire, il y a une fatigue mentale. Il y a une fatigue, enfin voilà, il y a plein de fatigues différentes et ça, il faut les travailler à l'entraînement.
Là, ouais.
Et ce n'est pas négatif le fait de la fatigue, c'est normal. La fatigue, elle est, tu connais, hein, Guillaume Millet, Grégoire Millet, etc. Moi, je pense que c'est des choses qui sont fondamentales, la fatigue, parce qu'il y a le sommeil qui va venir à un moment donné, qui va influencer ton adaptabilité, ton hémostasie et ton équilibre. Corporel, donc équilibre alimentaire, cumul en fait, on est dans un cumul de choses et les fatigues se cumulent.
Ouais.
Et donc c'est la difficulté. Quoi.
Ouais. Donc il faudra vraiment que je vais rappeler Guillaume. Pour compléter, il faudra que je discute avec Guillaume. Intéressant, j'ai été le rat de laboratoire pour lui, pour répondre à mes questions. Bon, écoute, c'est super, on a une heure, donc c'est largement suffisant, parce qu'au-delà, ça fait un peu beaucoup, puis toi, tu as peut-être aussi un peu autre chose à faire. Merci, hein, c'était super, vraiment, j'ai appris plein de trucs, c'est cool au bout de... Au bout de 15 ans, merci beaucoup. Et puis, si jamais j'ai besoin d'un complément, je te reprends une question par mail. Enfin, si j'ai besoin d'un détail.
Oui.
Écoute, je ne sais pas à quand en vrai.
D'accord, pas de problème. Ouais, ouais. Sinon, tu as vu, j'ai fait des petits articles sur mon blog Running Renaissance.
De toute façon, c'est ouais, évident. Ouais. Je vais mettre les liens sur... Bah oui, sinon, c'est plus simple. Oui, je te mets les liens et puis... Et puis les reports sur tes livres et tout, quoi. Non, non, bien sûr. Mais je mets ça, normalement, je mets ça en ligne ce week-end.
Et là, j'ai un gros projet sur l'aspect mental qui manque beaucoup, beaucoup dans l'ultra, en fait. Je vais écrire un truc vraiment là-dessus parce que ça, c'est un point qui manque énormément.
Bah, tu vois, je viens de... tant que j'y suis, donc, j'ai décidé justement de faire un accompagnement mental cette fois-ci. C'est la première fois, j'en ai jamais fait. Je me suis dit, bon, comme si vous, cette année, c'est vraiment une année particulière pour moi. Ce projet est un peu, il y a toute une histoire, tu vois, il n'est pas arrivé comme ça et tout. Donc, je me suis dit, on va aller au bout du truc. Et puis, je vais faire une prépa mentale. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que j'ai beaucoup de personnes. Quand j'ai annoncé, parce que je ne m'en cache pas, je trouve ça intéressant. Moi, c'est vraiment, je suis dans la démarche intellectuelle, si tu veux aussi. C'est-à-dire de me dire, tiens, ce truc-là, je ne l'ai jamais fait. Et ça m'intéresse de voir ce que ça peut donner. Je ne suis pas dans l'idée de ça va m'assurer absolument de passer la ligne d'arrivée. C'est plus de profiter de l'occasion. J'ai 50 ans, je suis à la moitié de ma vie. Tu sais, je réfléchis. Mais ce qui est vraiment très drôle, c'est de voir les retours que j'ai, et j'ai plein de personnes qui me disent, mais pourquoi tu fais ça? Tu es, avec tout ce que tu as fait avant, tu n'en as pas besoin. Et je trouve ça, et en fait, c'est assez marrant. Ils sont, enfin, voilà, c'est forcément, si tu as tout ce que tu as fait, c'est que forcément, j'ai un mental d'acier. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, comme si c'était évident que parce que tu as fait deux fois le marathon de sable, forcément, tu es hyper solide sur tes pattes arrière. Alors que non, je ne vois pas pourquoi, en fait. Enfin, je trouve ça étonnant, et j'ai vraiment eu beaucoup de réactions, de surprises, tu vois, de gens qui disent, mais pourquoi toi, tu n'en as pas besoin? Donc, ça, c'est assez marrant, quoi, de... Je ne sais pas, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, oui, parce que les gens ne sont pas... En fait, je pense que les gens ne comprennent pas trop ce que c'est qu'une prépa mentale. Déjà, si tu veux, considère que, je pense beaucoup, tu fais une prépa mentale parce que tu t'es planté une fois. Donc, tu dois... La prépa mentale, elle est là pour, en gros, aller... Enfin, trouver des réponses à tous tes échecs. Alors que, comme si, si tu ne pouvais pas être un...
En fait, non. Je te coupe, mais c'est en fait, on confond souvent vraiment la psychologie ou la psychanalyse, etc., avec l'accompagnement mental. L'accompagnement mental, en fait, il est sur le comment. Comment, oui, oui. Voilà, et pas sur le pourquoi. Oui. Le pourquoi, c'est de la psychanalyse, tu vois, c'est on va aller rechercher, moi ça ne m'intéresse pas, moi je vais aller chercher le comment, le présent et l'avenir, c'est-à-dire comment on va travailler pour ça, c'est-à-dire qu'on va mettre en place, et je vais forcer la personne à trouver elle-même les outils pour, oui, à un moment donné, quand elle va se retrouver en difficulté dans l'épreuve, qu'elle puisse avoir les ressources nécessaires pour parvenir à compter. Les gens ne l'ont pas compris comme ça, pour eux c'est une psychanalyse ou une analyse. Oui. Ou...
Tout à fait. Et en plus, très souvent, une analyse suite à plein d'échecs. Tu vois, c'est-à-dire qu'en plus, c'est négatif. C'est-à-dire que... et c'est vrai que je ne m'attendais pas... Ça m'a intéressé, tu vois, de voir les retours, justement, des gens. Quand je l'ai annoncé, de voir la façon dont c'était interprété, en fait. Le fait d'annoncer, enfin, de dire ouvertement, tiens, bah, je vais faire une prépa mentale, parce que... Enfin, moi, je trouve ça... je trouvais ça intéressant, et je trouve qu'en plus, ça allait d'autant... C'est d'autant plus intéressant à ce moment-là. Mais voilà, mais c'est un sujet dont on pourra parler. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, oui. D'explication de ce que c'est, et peut-être de plus de vulgarisation de ce qu'est la prépa mentale et de tout l'intérêt qu'on peut en tirer, quel que soit son niveau et quels que soient ses projets, surtout. Donc, il y a...